Il est 16h, c'est le moment de vos informations locales et régionales avec Marc Beaudoin. Marc, on parle tout d'abord de la personne qui succédera à William Amos.
Oui, c'est Sophie Châtel. On avait annoncé un petit peu plus tôt que la mairesse de Chelsea et préfète de la MRC des Collines de l'Outaouais, Carol Green, était intéressée par le poste. Mais là, on a su officiellement que c'est Sophie Châtel là, qui va remplacer William Amos, qui est Madame Châtel. Bien, elle a travaillé pour l'Organisation de coopération et de développement économique comme chef d'unité des conventions fiscales au sein du Centre de politique et d'administration fiscale. Elle a aussi travaillé pour Finance Canada et l'Agence du revenu. Et elle est également membre des comptables professionnels agréés du Canada.
Elle sera donc candidate libérale dans Pontiac pour les prochaines élections fédérales. On revient sur une histoire en lien avec le meurtre qu'il y a eu à Kitigansby il y a quelques semaines. Il y a le conseil de bande qui pourrait évincer de son domicile la fille de Shannon Ferguson.
Le conseil de bande de Kitigansby aurait l'intention d'évincer de son domicile la fille de Shannon Ferguson, la résidente de Kitigansby qui aurait été assassinée par son fils en juillet dernier. Dans une lettre adressée au père de la jeune femme, Patrick Ojik, et signée par le chef de la communauté Dylan White Duck, il est indiqué que le domicile de la rue Kakam, dans lequel elle réside, est une unité de location qui n'est pas destinée à la vente. Cette lettre fait suite à des démarches entamées par la famille de la jeune femme dans le but d'acheter la résidence où elle restait avec sa mère depuis 2009. Des membres de la communauté se sont rassemblés aujourd'hui devant les bureaux administratifs de Kitigansby et ont recueilli des signatures toute la journée pour démontrer au conseil de bande le mécontentement de la communauté face à la possibilité que la fille de Shannon Ferguson, Abigail, soit évincée de son domicile. Patrick Ojik, le père de la jeune fille, était présent pour l'occasion. D'abord, contrarié par la lettre qu'il a reçue, M. Ojik se dit optimiste quant à une future rencontre qu'il aura demain avec le conseil de bande. Voici ses commentaires.
J'étais fâché car c'était simplement un non et je n'ai pas eu l'autorisation d'être présent au moment de la décision. Ils m'ont dit qu'on allait avoir une rencontre demain. Nous allons voir comment ça va aller. Nous ne savons pas encore quelle va être la décision, mais je crois que ce sera positif.
Présente à la manifestation et s'occupant d'une pétition qui sera adressée au conseil de bande, Alexandra Bracoupé, voisine de la défunte, précise ce pourquoi il était important pour la communauté de se mobiliser.
Le conseil de bande a refusé de la laisser continuer d'y vivre ou d'acheter la maison. C'est la seule maison qu'elle a connue et nous sommes ici aujourd'hui pour protester, pour s'assurer que notre voix et celle d'Abigail est entendue et que les enfants de notre communauté ne deviennent pas sans abri si quelque chose devait arriver à leurs parents. Jusqu'à maintenant, nous avons la signature de près de 400 membres de la communauté.
Madame Bracoupé estime que les enjeux liés aux maisons louées par le conseil de bande sont multiples et espère que la mobilisation d'aujourd'hui servira à les dénoncer.
Abigail n'est pas la seule dans cette situation. Il y a beaucoup d'enfants qui vivent dans ces unités. Il y a un certain temps, c'était supposé faire partie d'un programme pour louer, puis acheter une maison pour les personnes qui n'avaient pas les ressources pour construire une maison. Le conseil a refusé de continuer le projet. Les gens ont investi dans ces maisons pour plusieurs années en mettant leur temps, leur argent et leur cœur. Si quelque chose arrivait à n'importe lequel de ses parents, les enfants deviendraient sans abri. Et c'est quelque chose que nous n'accepterons pas.
La résidence d'Abigail fait partie d'un ensemble d'habitations construits entre 2002 et 2010. Selon le conseil de bande de Kitigansby, ces résidences n'ont jamais été louées dans le but d'être vendues, comme le laissent entendre les organisateurs de la mobilisation. Il est également indiqué que les élus sont conscients qu'il s'agit d'une période difficile pour Abigail et que cette décision n'est pas prise de gaieté de cœur, mais qu'elle est nécessaire afin de faire respecter la réglementation en vigueur à Kitigansby.
Selon le Conseil national des chômeurs et chômeuses, arrêter la PCRE n'aiderait pas à la pénurie de main-d'œuvre.
La semaine dernière, la Chambre de commerce de Maniwaki et Vallée de la Gatineau a adopté une résolution demandant l'arrêt de la prestation canadienne de la relance économique qui a été acheminée au bureau du député de Pontiac, William Amos. Selon des membres de l'organisation, la prestation nuirait à la reprise économique de la région en contribuant à la pénurie de main-d'œuvre. Néanmoins, selon Pierre Serré, porte-parole pour le Conseil national des chômeurs et chômeuses, l'arrêt de la PCRE ne serait pas la solution. Selon M. Séré, les personnes qui bénéficieraient du programme seraient majoritairement des travailleurs autonomes, dont le domaine d'expertise ne répond pas à la demande des employeurs. De plus, les montants octroyés seraient insuffisants pour convaincre les prestataires de s'en contenter. Voici ses propos.
La PCRE, parlant de désinformation, c'est sérieux quand je dis que ça a été baissé à 300$ par semaine. Écoute, on ne vit pas avec 300$. On survit avec 300$. Alors, couper la PCRE à ce monde-là qui n'ont d'autres alternatives en ce moment, ben, c'est de les envoyer à misère. Ou c'est de leur dire ce dans quoi vous êtes investi toute votre vie, dans votre profession comme travailleur autonome, jetez ça aux poubelles. Ben, allez travailler dans un champ, allez travailler dans un magasin.
S'il mentionne néanmoins que la pénurie de main-d'œuvre est un problème réel auquel il faut remédier, M. Séré précise qu'il serait à la responsabilité des employeurs de rendre leurs emplois plus attrayants en donnant un meilleur salaire notamment.
Je peux vous dire par exemple que l'usine de transformation du bois qui est à Boisfort, elle paye bien ses employés, pas ceux qui sont en pénurie de main-d'œuvre. Et vous êtes une région aussi qui... Même avant la crise, le taux de chômage demeurait élevé parce qu'il y a besoin de création d'emplois par chez vous, puis d'industries qui ne soient pas juste saisonnières. Alors, les employeurs, là, devraient respecter le monde parce qu'ils veulent du monde qui aime ça travailler chez eux, devraient aussi respecter leur main-d'œuvre. Puis les gens veulent travailler. Il faut faire confiance aux gens. On ne bâtit pas sa vie avec un chèque de chômage.
Maintenant, Marc, il est question du service incendie de Maniwaki qui est désormais mieux équipé à intervenir sur les véhicules électriques.
De plus en plus de véhicules électriques hybrides et hybrides rechargeables sillonnent les routes de la région et cette tendance ne devrait que s'accélérer au cours des prochaines années. Dans cette optique, plusieurs pompiers du service incendie de la ville de Maniwaki ont assisté à une formation la semaine dernière. Comme l'explique le directeur du service Jason Campbell, il peut être complexe d'intervenir sur ce type de véhicule.
Il y a des fils haute tension, en fait, qui passent, là, qui relient les batteries du véhicule, la plate de batterie qu'on va appeler. Puis au niveau de ces fils haute tension-là, ils ne passent pas d'un modèle à l'autre, soit à la même endroit, où ils ont des particularités, des batteries qui sont pas situées à la même place non plus sur le véhicule, d'un modèle à un autre ou d'une marque à un autre. Ça amène une complexité, parce qu'en désincarcération, il ne faut pas couper non plus n'importe où. Donc, on pourrait s'en monter avec du haut voltage, là, qui est un danger de plus pour les pompiers.
Jusqu'à présent, le service incendie de la ville de Maniwaki n'a jamais eu à intervenir sur des véhicules électriques hybrides et hybrides rechargeables. Cependant, il s'agit d'une question de temps avant que cela n'arrive, en raison de l'augmentation de ces véhicules sur les routes de la province.
On devrait en avoir de plus en plus également, autant que ce soit pour des incendies, autant que des incarcérations, puisque à partir de 2035, là, on devrait avoir seulement ça là, qui est mis en vente. Là, donc, mais en ce moment, le marché au niveau des véhicules hybrides, hybrides rechargeables et tout simplement électriques, là, devrait faire un bond. Donc, on va en avoir de plus en plus là, dans les prochains mois et prochaines années.
Les membres de la brigade qui n'ont pas assisté à la formation auront tout de même l'opportunité de parfaire leurs connaissances par rapport à ce type de véhicule à l'occasion de leur pratique mensuelle.